Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marque engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! Dans les stocks dormants, on peut voir un gâchis de matière, un surcoût de chauffage et de logistique dans les entrepôts, une dégradation de l'image de sa marque, perçue comme inconséquente pour l'environnement, en écoulant au rabais des produits et des composants qui ont un jour eu une valeur. Commitment vous propose de changer de regard sur vos stocks dormants et de les aborder avec un prisme créatif. Ce jeune bureau de conseil français est spécialisé dans la métamorphose des stocks, considéré comme un gisement de matière pour créer un composant, un produit semi-fini ou fini, ou encore une œuvre d'art. Fort d'un réseau multipotent, des industriels aux artistes, il aide les marques à définir la meilleure manière de valoriser leur stock dans le respect de leur image, un certificat seconde vie à la clé et la possibilité de mesurer l'épargne environnementale de la solution choisie. En boucle fermée ou en boucle ouverte, Onward Fashion vous invite à une petite leçon de magie. Bonne écoute ! Bonjour Carole, bonjour Julie.
Bonjour.
Vous êtes ici pour me parler de Commitment, qui est l'entreprise que vous avez créée. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter vous-même et votre parcours ?
Alors, je commence. Donc, je suis Carole. J'ai 17 ans d'expérience dans le secteur de la mode. J'ai travaillé, par exemple, 5 ans à Londres pour une marque suédoise qui s'appelle Tiger of Sweden. J'ai été directrice commerciale pour diverses marques. J'ai travaillé dans le secteur de la chaussure en étant directrice export pour Kenzo. J'ai relancé une marque historique française qui s'appelle Stéphane Kélian. Et avant ça, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter homme avec Nina Ricci et Christian Lacroix. J'ai décidé de faire le MBA de l'Institut français de la mode en 2018 et c'est là que j'ai rencontré Julie.
Merci Carole. Donc moi c'est Julie. Je ne suis pas du tout issue du secteur de la mode puisque j'ai 15 ans d'expérience dans la communication financière et stratégique des groupes cotés en bourse. Et donc moi j'étais plutôt, on va dire, du côté obscur de la force. Mais mon parcours en fait est assez atypique puisque j'ai été très tôt formée aux enjeux de la RSE. Et donc c'est quelque chose qui a été chevillé au corps, que j'ai toujours souhaité en fait embarquer avec moi dans mes différents postes. Et c'est des sujets qui me passionnent. Et justement en fait, quand j'ai fait le MBA de l'Institut français de la mode, j'ai souhaité travailler dans le secteur de la mode qui me passionne depuis toujours, mais avec mon regard en fait d'investisseuse responsable.
Est-ce que vous pouvez me parler de la genèse de cette entreprise, en fait, la problématique identifiée qui a conduit à sa création ?
Alors au départ, donc c'était en 2018, on a commencé par réfléchir au kintsugi, qui était le concept des Japonais, faire du reconstituer des porcelaines qui sont cassées, donc à partir du cassé, du moche, refaire du beau, puisque la porcelaine est liée avec de l'or. Et avec Julie, on s'était dit qu'on aimerait récupérer les déchets de la mode et en refaire du beau derrière. En fait, cette idée est née de la loi AGEC qui va être applicable à partir de janvier 2022. Et on s'est dit, que vont faire les marques de mode et de luxe avec leur stock de produits finis gênants, inutile, défectueux, comment le revaloriser, comment le transformer, comment répondre à cette loi AGEC?
C'est vrai qu'en fait, il y a toute cette philosophie qu'on a souhaité développer, puisqu'en fait, on s'est dit que le recyclage, déjà, sans parler de luxe, c'est pas très sexy. Dans la conscience collective, on voit la poubelle jaune dans nos immeubles. Et en fait, on s'est dit, mais alors, comment ça va se passer pour justement les marques de luxe qui, pour elles, enfin, leur business model est quand même fondé sur la désirabilité. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer le recyclage dans cette industrie?
Commitment propose des concepts clés en main aux marques de mode, de luxe, mais aussi de grande distribution pour revaloriser leur stock de produits finis en accord avec la loi AGEC.
Donc en pratique, n'importe quelle entreprise peut venir vous voir avec une problématique de stock, qu'il s'agisse de matières premières, de produits finis, de packaging, de PLV, etc. Et vous, vous vous engagez à trouver des solutions de revalorisation, de transformation.
Oui, tout à fait. En fait, effectivement, une marque va contacter Commitment en se disant, voilà, j'ai une problématique de stock dormant, pas forcément en définissant ce qu'elle a, c'est-à-dire elle peut avoir des rouleaux, elle peut avoir des produits finis. Et en fait, notre rôle avec Carole, c'est de faire un audit. Tout commence par un audit pour justement identifier ce qui va vraiment être intéressant, par exemple, à transformer ou à donner en fonction. Parce que tout n'est pas transformable. Et justement, c'est le rôle qu'on a avec Carole de travailler sur cet audit pour, par la suite, proposer les solutions les plus adaptées à la marque, que ce soit avec son ADN ou bien sûr ce qu'elle veut faire.
Quel type de débouchés vous proposez? Est-ce que ce sont des objets à revendre? Est-ce que c'est pour en refaire de la matière première en boucle ouverte, en boucle fermée?
Alors justement, oui, on a boucle ouverte ou boucle fermée. Donc ce qu'on propose principalement, c'est de l'économie circulaire, donc en boucle fermée. Un exemple, c'est on a un stock de sneakers. On va faire une étude de faisabilité. On étudie la matière et par rapport à cette matière, on va voir si on peut refaire une semelle avec une semelle. Donc ça, c'est en boucle fermée. Et si les besoins de la marque, c'est de trouver un industriel pour cette matière, on cherche un industriel. Donc par exemple, on a eu une problématique de mousse de soutien-gorge. Donc cette mousse, on aurait pu essayer de la réintégrer en interne pour qu'elle soit commercialisable à nouveau dans une collection, enfin trouver une solution en interne. Mais la marque préfère trouver une solution extérieure, donc la plugger avec un industriel.
Il faut qu'on s'appuie sur un écosystème et ça fait plus de 3 ans en fait qu'on travaille justement à trouver des partenaires, à la fois des artistes engagés qui sont capables justement de travailler ces matières transformées, mais aussi des ingénieurs matières qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait par rapport à l'audit, vont nous permettre d'identifier les composants d'un produit fini et bien sûr nous dire voilà, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, et aussi des industriels. Donc en plus, les industriels ne sont pas forcément habitués à parler aux acteurs de la mode. Et avec Carole, on s'est dit, et on est fortement convaincu, que pour régler le problème de fond du secteur de la mode, c'est-à-dire de traiter du volume et de la récurrence justement de leurs invendus, de leurs défectueux, etc., il faut des industriels qui ne soient pas dans le secteur de la mode. Prendre une matière comme Carole l'évoquait sur la semelle d'une sneakers, c'est du caoutchouc. Il faut savoir que vous avez entre 10 et 40 composants différents dans une semelle. Eh bien, il faut trouver l'industriel qui sera capable, qui sera un caoutchoutier, qui sera intéressé en fait par reprendre ce type de semelle. Donc, c'est exactement ce que l'on fait avec Carole en fonction des besoins de l'entreprise.
En pratique, vous êtes vraiment un prestataire de solutions et de services avec un annuaire d'exécutants après la discussion et la validation d'un projet avec une marque. J'imagine que ça doit se faire dans le respect des codes de son image, si vous pouvez vous adresser à des marques de luxe aussi bien qu'à la grande distribution.
Oui, on a un bureau de conseil. En fait, quand on arrive, donc il y a un stock de produits gênants existants, donc on l'identifie. Et par rapport à ce stock, on va bien sûr étudier les codes et l'identité de la marque. Si on travaille pour un Lacoste ou un Balenciaga, la solution sera complètement différente puisqu'on va se lier à 100% à leur identité.
Et ce qui ressort en fait de nos clients actuels, c'est vraiment la créativité en fait dont on fait part avec Carole. Et pour donner un autre exemple qui illustre cette créativité, c'est qu'on avait travaillé sur un projet pour un acteur de la grande distribution qui avait des sacs en toile de jute à recycler. Et on lui a en fait proposé de réaliser des bandes dessinées en recyclage de cette toile de jute en papier. Et pourquoi ? Parce que la marque de distribution avait un ADN fort dans tout ce qui va être librairie. Et ils avaient adoré le projet, mais bien sûr, le méchant Covid est passé par là, donc ça n'a pas pu avoir lieu pour des raisons de budget et d'autres problématiques. Mais voilà, ils avaient souligné cette créativité.
Est-ce que il arrive des cas où la revalorisation n'est pas possible ? On a évoqué la complexité de l'intrication des matières, par exemple, mais j'imagine aussi pour des raisons de volume. Qu'est-ce que c'est finalement les no-go ?
Alors oui, il y a des matières, des produits finis qui sont ingérables au niveau recyclabilité. On connaît par exemple des baskets qui ont 94 composants différents, 3 semelles différentes sur le même produit. Donc la seule solution, c'est le broyage. Le démantelage est impossible. Donc oui, il y a des problématiques parfois de conception de produits qui ne sont pas recyclables. Et aussi... on a besoin de quantités suffisantes pour défibrer, par exemple, un tissu. Il nous faut 250 kg minimum pour pouvoir faire fonctionner les machines. Donc, il y a des quantités à respecter. Si on veut faire une nouvelle semelle à partir d'une semelle, il faut un minimum de quantité de 400 kg. Donc, on ne peut pas se retrouver avec des quantités qui ne soient pas assez grandes pour revaloriser. Et aussi, il nous faut un stock de matière qui soit cohérent, ce soit les mêmes matières ensemble. On ne peut pas avoir une variété de matières différentes, par exemple plein de caoutchoucs différents, mais avoir les 400 kilos.
En fait, ce qu'on apporte aussi aux marques, faut le savoir, c'est donc cet écosystème dont on parlait tout à l'heure, mais on est un accélérateur de circularité. Parce que c'est vrai que les marques aujourd'hui, les responsables RSE qui sont au sein des marques, croulent sous l'opérationnel. Et nous, en fait, on arrive avec cet écosystème et on est capable de leur dire oui, non. Dans le sens où on sait exactement quelle innovation est sur le marché, si elle est au stade encore, on va dire, de test, ou alors si on peut parler de pré-industriel, si on peut passer à l'échelle du volume. Et ça, c'est un gain de temps assez conséquent pour les marques qui, justement, travaillent toujours dans l'urgence. Et on est capable de leur dire, voilà, vous avez ce produit-là, ça, c'est pas possible. Parce que, comme le disait Carole, l'histoire de la basket avec 90 composants, ça n'a pas de sens. On ne peut pas démanteler. On ne peut pas avoir des tout petits bouts et après avoir un volume pour un industriel. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, on est capable de dire non à une marque. Ensuite, par rapport au projet, effectivement, on a un panel de solutions assez large puisqu'on fait du sur-mesure. Donc c'est aussi quand on nous dit combien ça coûte, c'est difficile pour nous de chiffrer comme ça, parce qu'en fait, c'est en fonction de la problématique du produit. Donc une sneaker n'aura pas les mêmes problématiques qu'une veste, entre guillemets, et aussi en fonction de ce que veut l'entreprise. Si elle nous dit « moi, je veux de la boucle fermée ou de la boucle ouverte », ce n'est pas du tout le même type de prestation. Et après, effectivement, on peut aller jusqu'à l'œuvre d'art. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec un client qui s'appelle Broderie Gouvernel, qui est en fait un sous-traitant des métiers d'art de Chanel. Et lui, typiquement, on a, entre guillemets, on a bien rigolé avec Carole quand on est arrivé dans son stock, puisqu'il y avait au moins 4 à 5 étages remplis de cartons. Donc on avait le crayon derrière l'oreille, avec des gants et un bonnet en train de faire cette audite. Et de se dire, effectivement, il y a du stock. Et en fait, aujourd'hui, là, il n'a quasiment plus rien parce qu'on a fait cette audite. On a fait des dons à une association qui s'appelle Studio Abby et qui est spécialisée dans tout ce qui est loisirs créatifs pour les enfants. Donc, elle a créé en fait des objets, des bijoux et des déguisements avec ça. Et on a des témoignages formidables sur les enfants qui ont touché cette matière noble, hein, qui était les perles de verre. Et donc, on a aussi fait avec le directeur artistique de Broderie Gouvernel et un maître verrier, un luminaire d'exception qui est en cours de réalisation. Et c'était l'objectif de Broderie Gouvernel, c'était de lancer en fait une nouvelle gamme, on va dire, de produits dans le décoratif. Donc, ça va être fait. Et aussi une œuvre d'art.
Pour le maître verrier de Pantin, c'est la compagnie du verre Thomas Arnal, qui s'occupe de la fabrication de ce luminaire. Et ensuite, on va passer, donc ça va être prêt dans quelques mois. Et ensuite, on va passer à une œuvre d'art à partir de ces perles de verre et peut-être des fils de broderie gouvernelle pour en faire une œuvre d'art qui sera exposée dans différents lieux à déterminer, puisque la société est dans le nord-est de la France, près de Nancy. Donc voilà, ce sera exposé dans certaines institutions. Et juste pour rebondir aussi sur l'identité de la marque Broderie Gouvernelle, on s'est vraiment adapté à leur ADN en leur racontant une histoire, un conte de fées lié à tout ce monde de la broderie et de magie de la main. Donc c'est comme ça aussi qu'on a séduit le PDG de Broderie Gouvernelle, en lui racontant une histoire en lien avec sa maison, ses perles de verre et ce conte de fées.
Les cartons transformés en œuvres d'art. Comment est-ce que vous faites pour chiffrer les projets? Qu'est-ce que ça coûte s'il y a une moyenne peut-être, ou un exemple en tout cas à donner? Et comment est-ce que c'est valorisé aussi économiquement pour l'entreprise? Vous avez évoqué l'entrée dans la circularité, on va parler de la communication après. Je pense qu'effectivement il y a d'autres considérations qu'économiques en termes de bénéfices, mais malgré tout, qu'est-ce que ça peut leur rapporter concrètement?
Bah, valoriser le coût, c'est très très compliqué, parce que si vous demandez à un artiste à Takashi Murakami, ça va pas coûter la même chose qu'un petit créateur en province, en France. Donc c'est très compliqué, on peut pas quantifier, vous donner des tarifs aujourd'hui, parce que tout dépend de ce qu'on va faire. S'il y a aussi besoin de recherche et de développement, donc ça coûte aussi cher, ça prend du temps. Donc les tarifs, on n'en parle pas vraiment pour le moment. Ça dépend du projet. Nous, on est un bureau de conseil, donc on prend une commission par rapport à la totalité du projet. On vend un concept clé en main avec plusieurs propositions et plusieurs partenaires. Donc c'est comme ça que on valorise, en tout cas, commitment. Donc ça, c'est pour le côté rémunération. Et après, sur l'entreprise, la marque peut avoir des avantages. Par exemple, si on fait travailler des associations, des centres d'insertion, des associations comme Studio Abi, les sociétés, les marques peuvent avoir de la défiscalisation. Donc c'est ça qui est intéressant pour la marque.
Et aussi, en fait, on s'est rendu compte que les marques, bien sûr, stockent en fait leur stock dormant dans des entrepôts, et qui chaque année, en fait, ça va très vite le chiffrage. On a certains exemples qui vont jusqu'à 100 000 euros par an. Donc, tout simplement, si déjà vous faites le ménage entre guillemets et que vous économisez le stockage, enfin l'entrepôt, le coût de l'entrepôt, c'est déjà gagnant pour l'entreprise. Ensuite, aujourd'hui, l'économie circulaire, est-ce une option? Question ouverte, dans le sens où on voit que le coût des matières premières ne fait qu'augmenter. Et ça, apparemment, la situation ne va pas s'arranger. Donc, ce qui veut dire que si on réfléchit en termes d'économie circulaire, on maîtrise mieux en fait son approvisionnement, son sourcing, puisqu'on se dit qu'on est assis sur un gisement en interne et qu'on va valoriser ce gisement pour recréer en fait de la matière. Donc, effectivement, il y a quand même un bénéfice pour l'entreprise. C'est stratégiquement parlant, c'est de maîtriser encore une fois son sourcing. Et comme vous le disiez tout à l'heure, après, il y a aussi l'aspect communication et réputation qui n'est pas facile à chiffrer, parce qu'on ne peut pas rentrer dans des cases des chiffres. Mais bien évidemment qu'aujourd'hui, par rapport à l'exigence des consommateurs et la réglementation, en termes de communication, oui, les impacts vont être très intéressants.
Est-ce que vous proposez justement un accompagnement à la démonstration de ces actions pour une entreprise, un accompagnement à la communication une fois que le projet est terminé?
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est pareil, tout dépend de la marque et ses besoins, son cahier des charges. Par exemple, pour Broderie Gouvernelle, on va faire une mise en récit, on va s'occuper de la communication concernant ce projet. Après, si vous êtes une marque de luxe, on n'intervient pas vraiment sur la communication, parce qu'il y a toute une équipe derrière. Mais bien sûr, ça fait partie d'une des options de commitment.
Est-ce que vous avez une notion ou des data de la réduction de l'impact environnemental d'un projet pour une marque? Est-ce que c'est quelque chose que vous fournissez?
Oui, on fournit deux types de choses. Déjà, par rapport à la loi AGEC, on fournit le certificat que nous, on appelle seconde vie et pas fin de vie, puisque théoriquement, nos projets en fait, sont créateurs de valeur à nouveau pour ces matières dormantes. Et donc, on réalise en fait ce certificat avec un certificateur très connu sur la place, on va dire, qui nous permet de, en fait, qui va permettre aux marques de justifier auprès des autorités qu'elles n'ont pas détruit leur stock. Donc ça, c'est un premier volet. Et le second, c'est que effectivement, en termes de reporting, on propose aux marques aussi de mesurer l'impact de nos solutions, donc des transformations qui sont réalisées en matière environnementale, par exemple, consommation d'eau, de CO2, énergétique, etc. Puisque certains, alors si les groupes sont cotés, pas énormément, mais enfin, si les groupes sont cotés, elles ont l'obligation de rendre compte. Donc, nos données vont pouvoir être pluguées à leur reporting. Et si elles ne sont pas cotées, en tout cas, elles ont sûrement développé des reportings en interne sur leur impact. Et donc, nous, c'est pareil, nos données vont pouvoir être pluguées à leur reporting. Donc oui, c'est tout à fait des choses que l'on propose.
Vous avez mentionné donc la genèse de l'entreprise en 2018. Entre-temps, le Covid est passé par là. Selon vous, c'est quoi le degré de maturité des marques face à votre solution? Comment est-ce que vous avez vu peut-être cette maturité évoluer entre le moment où vous avez lancé l'idée, où j'imagine on vous a un peu pris pour des hurluberlus, et aujourd'hui, vraisemblablement, ça parle?
Alors, on va dire que les projets RSE aujourd'hui sont sur la top liste number one des marques aujourd'hui, puisqu'il y a cette loi AGEC. Au début, la priorité, c'était plus les chutes de matière. Et aujourd'hui, on s'attarde plus aussi aux produits finis, puisque cette loi arrive. Après, la maturité, le degré de maturité, c'est que la RSE est en haut de la liste, mais quand les marques se rendent compte des coûts, des changements que cela implique, des changements de process au sein de la société en interne, le niveau baisse au niveau de l'implication RSE. Donc, ce sont des sujets qui intéressent les marques. Elles veulent aller vers plus d'économie circulaire, mais appuyer sur le bouton, c'est encore compliqué.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut se rendre compte aussi, parce qu'avec Carole, on n'est pas du tout dans le côté négatif en disant s'il y a des méchants, ils respectent pas ci ou ça. C'est pas du tout notre fer de lance. En fait, faut savoir que, comme vous, enfin, maintenant tout le monde le sait, que la chaîne de valeur, en fait, aujourd'hui est encore assez linéaire. Et ce n'est pas facile en fait pour une marque qui fonctionne depuis de nombreuses années d'une certaine manière de se dire voilà, demain pas de problème, je fais un circuit fermé et ça va aller. C'est très compliqué en fait de mettre en place de l'économie circulaire pour les marques qui existent depuis de nombreuses années, contrairement en fait aux marques qui se lancent. Effectivement, la page est blanche, donc on peut déjà mettre en place les process de manière plus facile que des mastodontes qui vendent worldwide et qui ont des unités de production partout dans le monde. Maintenant, c'est pour ça qu'en fait, avec Carole, on propose de faire des projets pilotes pour que les marques se rendent compte, en fait, touchent du doigt la réalité de l'économie circulaire en se disant « Ok, ça impacte tel service chez moi, tel fournisseur, tel donneur d'ordre. Voilà comment je vais peut-être pouvoir définir des objectifs à court, moyen terme et m'y atteler. » Au lieu de dire je vais tout faire d'un coup, ce n'est pas possible en fait. C'est pour ça qu'on aime bien parler d'audit, parce que par définition, un audit, c'est qu'on fait un état des lieux de la situation et par la suite, on va mettre en fait un plan d'action. Donc c'est ce qu'on propose et on pense qu'il n'y a que de cette manière-là en fait que les marques vont se rendre compte effectivement du chemin à parcourir. Et c'est pour ça qu'on est très positif sur le sujet, parce que oui, les choses bougent, les mentalités changent, le chemin est encore long à parcourir, mais le changement est là. Et ensuite, effectivement, il y a en termes de projet pilote, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que ça va permettre aussi en interne de faire évoluer, parce qu'on se rend compte aussi avec Carole, qu'il y a certes les départements de RSE qui sont là aussi pour faire évoluer les choses, mais il faut qu'une personne, enfin, on va dire les dirigeants, aient une vraie vision et embarquent en fait l'ensemble des personnes. Et c'est pour ça qu'aussi on propose des ateliers de sensibilisation en fait aux équipes pour qu'elles comprennent en fait de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on peut les aider à justement fédérer les personnes autour de ce type de projet.
J'imagine que ça peut amener une réflexion sur l'amont de la chaîne et tout simplement des notions d'éco-conception.
Oui, on est convaincu avec Julie que l'économie circulaire ne peut exister que si on pense à l'éco-conception et qu'on fabrique des produits recyclés et recyclables.
Et il faut savoir aussi que, donc par exemple, par rapport à la sneakers avec plus de 90 composants, au sein même d'une marque, en fait, par exemple, si une marque propose 10 modèles différents de sneakers, et bien dans ces 10 modèles différents de sneakers, les composants ne vont pas être les mêmes. Donc c'est pour ça que l'éco-conception est aussi très importante, parce que les marques, si elles utilisent des composants différents pour chaque modèle, on revient à la problématique déjà de recyclage, parce qu'on ne peut pas avoir des volumes suffisants pour recycler par la suite. Et effectivement, l'éco-conception, voilà, on est convaincu que le projet pilote dont on a parlé tout à l'heure est un moyen aussi de leur montrer du doigt que l'économie circulaire est égale aussi à éco-conception. Parce que sinon, le coût est monstrueux. Je veux dire, chaque année, ils ne vont pas faire de 20 projets pilotes et puis l'addition va être lourde.
Donc, il y a quand même une scalabilité en quelque sorte envisageable pour une entreprise à l'issue d'un projet pilote. On peut considérer
Bien sûr.
Que la solution n'est pas...
Non, c'est justement pour comprendre en fait où sont les faiblesses, les difficultés de mettre, enfin comment est-ce qu'ils peuvent pluguer en fait l'économie circulaire à leur chaîne de valeur par étape, comme on le disait tout à l'heure. Mais bien sûr qu'après l'objectif c'est de générer du volume, parce que sinon ça reste des solutions anecdotiques et on est encore une fois on résout pas le problème de fond des marques, puisque chaque année, même si elles font un peu plus attention avec des logiciels qui sortent de l'intelligence artificielle sur la production en amont et la limitation, on va dire peut-être de surstock, ce genre de choses, bah même au bout du bout, il restera des choses, que ce soit des défectueux ou des invendus, des prototypes, etc. Donc oui, c'est dans cette logique qu'il faut aller.
Alors, quelles sont les prochaines étapes pour Commitment ?
Le Challenge Innovation 2021 avec ReFashion, on s'est focalisé sur la basket. Donc là, on est en train de finaliser un dossier pour ce projet innovation. Et on est en train de travailler sur avec une marque de packaging. On est en train de chercher des solutions à partir de matériaux assez spécifiques, puisque ce sont des feuilles de bois, 11 000 mètres carrés de feuilles de bois à recycler, à trouver une nouvelle vie à ces feuilles de bois.
Alors, une question plus ouverte pour terminer. D'après vous, c'est quoi le rôle d'une entreprise en 2021 ?
En fait, on trouve que effectivement, ce qui serait intéressant pour une entreprise, c'est l'innovation, on va dire de un peu l'innovation créative, pour dire que en fait, elles doivent aller chercher des acteurs qui sont pas forcément dans leur secteur pour trouver des solutions justement d'économie circulaire ou de recyclage de leurs différents produits ou déchets. Parce que c'est en faisant des ponts avec des personnes qui théoriquement on ne doit pas leur parler, on leur a jamais parlé, que l'innovation est vraiment très très intéressante et il y a des acteurs d'ailleurs qui se positionnent sur ce genre de sujet et je trouve ça formidable d'entendre que les écorces d'entreprises de jus d'orange sont récupérées pour le secteur du parfum. Par exemple, pour les essences, etc. Je trouve ça formidable. Et on entend de plus en plus ce genre de choses. Et je trouve qu'une entreprise, aujourd'hui, doit aller chercher ce genre d'innovation, de concepts, de process. On a à apprendre beaucoup les uns des autres. Pour nous, ça serait ce que représente une entreprise en 2021 et plus. Ce qui est important, je pense que c'est aussi de rester authentique par rapport à ces valeurs d'entreprise. Pas essayer forcément de coller à l'ère du temps, mais de toujours savoir d'où on vient et où on va par rapport à soi-même, en fait. Et pas de dire, cette entreprise, elle a fait ça, il faut absolument qu'on fasse pareil. Non, on pense qu'il faut rester authentique et c'est là d'où jaillira, en fait, les plus belles innovations.
Tu vas me faire pleurer, Julie.
Ah, je sais.
Merci beaucoup, Carole et Julie.
Merci.
Merci à Commitment, alors, et à ces entreprises qui sortent de leur zone de confort et qui innovent en faveur de la RSE.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode.
La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com